Sympathy, c'est le titre de la pièce que nous venons d'entendre interpréter à Turin au mois de novembre 1934 par le Quartetto Cetra, avec notamment Cesare Steele qui est un homme qui joue des instruments à hanches, et puis au premier plan Agostino Valdambrini au violon. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas se souvenir que le violon jazz, enfin je dis ça sur le modèle de piano jazz, le violon jazz avait été inventé dans les années 20 aux États-Unis, essentiellement par deux hommes. L'un qu'à l'époque très peu de gens connaissaient, c'était Stuff Smith, mais qui allait se faire connaître notamment à partir du moment où il serait engagé par les responsables et les patrons de l'Onyx Club de la 52e rue à New York. Et l'autre, bien sûr, c'était ce merveilleux musicien italien et personnage qui est un roman à lui seul, je dirais. Mais raconter sa vie, c'est raconter un roman extraordinaire, qui est Giuseppe Venuti, l'homme qui racontait qu'il était né sur le bateau qui amenait ses parents d'Italie en France. Je crois qu'en fait, il était déjà né en Italie.
Oui, ce que Mazzoletti a révélé.
Alors, vous avez parlé de bateau. Voilà une transition qui m'intéresse. Paris était un foyer rayonnant, la capitale des activités artistiques, la littérature, les arts graphiques, plastiques. Les Russes, les Espagnols, les Scandinaves, les Américains et aussi les Italiens venaient s'installer à Montmartre et à Montparnasse.
Il y avait des Polonais, certainement.
Voir les Polonais. Et les Italiens n'ont pas connu ça. Et ceci explique peut-être cela. Les musiciens américains se fixaient volontiers à Paris. Ils étaient pris comme modèles et inspirateurs par leurs homologues français. Mais sur ce plan-là, Mazzoletti précise une chose importante. Il y avait certes des nightclubs dans la capitale française, des musiciens expatriés, mais pas en si grand nombre et pas aussi influents qu'on a eu tendance à le croire. Et moi, j'ai un souvenir personnel de Charles Delaunay qui m'a parlé souvent du club qui s'appelle Florence, qui est pour l'amateur de jazz, c'était l'un des foyers du jazz à Montmartre, où jouait Benny Carter dans au milieu des années 30. À la fin des années 30. Et Charles Delaunay me disait, on n'y allait jamais parce que la musique qui y était jouée était une musique incolore, inodore, sans saveur, qui était faite pour des noceurs friqués. Et les musiciens de jazz, les pauvres, étaient obligés de jouer cette musique pour donner satisfaction à ces danseurs et ne pouvaient s'éclater à jouer ce qu'ils avaient envie de faire, que très rarement. Dans le même temps, qu'en était-il des musiciens italiens? Et là, Mazzoletti nous apprend qu'ils étaient bien mieux lotis en dépit de l'absence totale de musiciens américains. Pourquoi? Eh bien parce que, à partir de 1927, la ligne de paquebot transatlantique Gênes-New York était devenue régulière. Sur ces bateaux, pour le divertissement des passagers, on entretenait des orchestres. La traversée durait une semaine à l'aller, autant pour le retour, mais ce retour ne s'effectuait que deux semaines plus tard. Ainsi, vous l'avez deviné, les musiciens avaient tout le loisir d'aller hanter les bistrots, les boîtes, et être en contact avec les musiciens locaux. Il y a notamment dans le livre ici, Piero Rizza, qui est un musicien qu'on voit souvent, qui a été une des têtes d'affiche de ces orchestres des années 20 et 30, Piero Rizza, en 1932, est parti à bord du Conte di Savoia, il dirigeait l'orchestre, et il a donné en 1945 trois interviews publiées par la revue Musica Jazz, qui venait de naître, dans lesquelles il raconte comment, à l'issue de ses voyages, il allait rencontrer Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey et tous les musiciens new-yorkais. Et ça, ces musiciens italiens, donc, avaient mieux que les Français, je dirais. Parce que les Français, s'ils n'avaient que la musique de chez Florence, c'était pas vraiment un très bon exemple. Alors que les Italiens, quand ils sortaient là-bas, à Harlem et ailleurs, avaient le genuine jazz.
Mais c'est possible aussi parce que justement, Gênes est une capitale régionale et que l'Italie, en raison de son histoire, et qui était à l'époque encore une histoire récente, oui. Est un pays de région. Il n'y avait pas ce centralisme
Je crois que vous dites
Paris.
Une chose importante là. Oui, en effet. En effet.
Ah oui, parce qu'il y aurait eu.
En effet.
Il y avait forcément une ligne, je suppose, Cherbourg-New York. Ben, mais évidemment, être musicien de jazz à Cherbourg, ça n'avait strictement aucun sens. C'était inimaginable.
Oui. Voilà donc cette chose qui nous est révélée ici, parce que le jazz avait une réalité quand même en Italie. J'ai ici sous les yeux, tenez, je vous l'ai apporté, bien sûr, nous ne sommes pas à la télévision, mais vous allez me croire sur parole. J'ai ici un bulletin, un supplément de la marque Phonotypia Odeon, de septembre 1926, qui représente Louis Armstrong et sa trompette, avec comme titre « Les ultime novità ». Donc, en 1926, la firme italienne publiait ces enregistrements des Hot Five qui venaient d'être gravés quelques mois auparavant. Donc, sur le marché, il y avait du jazz. En Italie.
Ce qui est tout à fait surprenant, parce que vous le savez mieux que moi, André, parce que vous avez trempé dans cette soupe-là, mais on sait très bien que dans les années 50, parfois, les disques américains mettaient 2 ans, sinon 3, pour être publiés en France, compris les disques de vedettes comme Miles Davis.
Et malheureusement, il ne s'est pas trouvé, on y revient, il ne s'est pas trouvé de Delaunay, de Panassier, d'Henri Bernard pour encenser, se rendre compte. Il a fallu attendre Testoni, Polillo et à la fin des années 30. Voilà un petit peu le drame de ce jazz italien qui n'a pas été reconnu. Ce jazz italien, il n'a pas été reconnu, mais maintenant, il est bel et bien. Voulez-vous que je vous fasse entendre quelque chose de plus contemporain ? Presque. Par exemple, Aldo Romano et son quartet. Aldo Romano avec le trompettiste sarde Paolo Fresu. Franco D'Andrea, qui est le pianiste, Furio Di Castri, le batteur, et bien entendu Aldo Romano, qui lui est italo-français.
Voilà, en plus, ils sont à Tokyo, je vois.
Et voilà l'universalité du jazz. L'enregistrement que je vous propose a été réalisé à Tokyo en 1992. C'est Aldo Romano qui a voulu consacrer un album à la chanson italienne. Dieu sait que la mélodie en Italie, on sait ce que c'est, et ça ne manque pas. Écoutez celle-là. Mm-hmm.